Et le message de ces révélations, c'est de dire, le Seigneur est là. Le Seigneur est déjà là même, pour certains d'entre eux. Comme s'il était déjà revenu. Ou pour d'autres, ben, il revient bientôt. Alors, on se dit, mais oui, mais bon, on sait bien que le Seigneur revient bientôt, évidemment. Et c'est pas Paul qui va nier cela, puisqu'il en parle tellement souvent. Mais ce qu'il veut souligner ici, c'est que même si c'est une vérité centrale du Nouveau Testament, que le Seigneur revient, en fait, c'est la doctrine qui est le plus souvent citée dans tous les livres du Nouveau Testament. Donc, c'est une vérité qui est affirmée d'une manière massive, d'une manière extrêmement forte. Donc, il y a une espérance pour le retour du Seigneur. La Bible se termine avec ces paroles de l'Apocalypse qui dit « L'Esprit et l'Épouse disent « viens Seigneur ». Oui, oui, bien sûr. Oui, à l'attente, mais non, à une certaine façon d'attendre le Seigneur, qui est entourée de, finalement, de frénésie, d'anxiété, d'une sorte de d'insécurité, et que l'on retrouve à toutes sortes d'époques dans l'histoire. Quand on est passé de l'an 1000 à l'an 1000, de l'an 999 à l'an 1000, il y a eu pendant des années toute une fièvre qu'on appelle une fièvre millénariste, où tout le monde attendait la fin du monde. Quand on est passé à l'an 2000, et là on y était tous, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur ce qui allait se produire à ce moment-là, entre le passage de 1999 à l'an 2000? Ben, il s'est rien passé. Bon, il y a eu une tempête, mais ça n'a pas été non plus ce qu'on annonçait. Donc, on est devant régulièrement dans l'histoire de l'Église, devant une sorte de frénésie qui s'empare du cœur des gens et qui finalement, dont on est averti, de laquelle il faut se prémunir. Alors, qu'est-ce que je veux faire ce matin avec vous? C'est partager quelques vérités qui demeurent, quelques principes qui demeurent. Et d'abord, évidemment, dire oui, oui à l'attente fervente du Seigneur, bien sûr, mais de la façon dont l'Écriture nous invite à l'attendre. Quand l'Écriture parle du retour du Seigneur, elle parle finalement de son avènement. Et finalement, il faudrait mieux préférer le mot « avènement » qui vient du grec « parousie » et qui signifie « manifestation ». Qui signifie révélation, présence manifestée. Il faudrait préférer cela, justement, à la notion d'un retour. Parce que c'est vraiment la pensée du Seigneur. Le thème de son retour, plutôt donc de son avènement, vient d'un mot qui, je viens de le dire, signifie parousie, et qui parle de sa présence, qui parle de sa venue, de son arrivée, de son avènement. Et ce mot est employé pour décrire le retour futur et visible du Seigneur depuis les cieux, et qui va être suivi du jugement dernier et établir formellement et glorieusement le royaume de Dieu. Et quand l'Écriture parle de cette attente, quand Paul ou les autres apôtres en parlent, ils en parlent comme d'une bienheureuse espérance. Quand Paul parle dans Tite, chapitre 2, de la grâce de Dieu, il dit qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, etc., et à vivre dans le siècle présent, donc aujourd'hui, au 21e siècle, bien sûr, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Et là, manifestation, et là le mot manifestation, c'est pas le mot avènement, c'est le mot épiphanie, de la gloire du grand Dieu et sauveur, et de notre sauveur Jésus-Christ. C'est donc une bienheureuse espérance, évidemment. Paul continue dans Philippiens 3, verset 20, il dit « Nous attendons notre cité dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. » Donc, toute l'Écriture nous invite à attendre le Seigneur. Mais elle nous met en garde comme cette notion d'imminence. Évidemment que le Seigneur peut revenir à tout moment et il faut être toujours prêt, c'est clair. Pour autant, nous devons vivre, comme dit l'apôtre Paul, dans le siècle présent, d'une manière juste, sensée, sobre, dans l'attente, mais pas dans une mauvaise impatience, pas dans une attente anxieuse qui fait qu'on est toujours à l'affût de décoder les événements, les situations dans les, qui se présente à nous en pensant que ben, cet événement, encore une fois, montre que le Seigneur va revenir de suite. Non, c'est pas ainsi, c'est pas dans cette attitude de frénésie que l'Écriture nous invite à attendre le Seigneur, même si, nous, bien sûr, nous devons hâter et nous devons soupirer après son avènement. Pourquoi ? Parce que quand il viendra, nous allons le voir. Nous allons voir sa gloire, nous allons le voir dans sa... En fait, c'est notre aspiration la plus suprême, c'est de le voir dans qui il est, dans sa gloire, dans sa majesté. Et là, sa gloire va être manifestée à l'échelle mondiale, à l'échelle de la planète. Et parce que nous le verrons, l'apôtre Paul nous dit que nous serons transformés. Les morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront restés seront transformés à son image pour vivre dans le royaume éternel et sur la nouvelle terre où la justice habitera. Donc ça, c'est notre espérance. Et il ne faut surtout pas la laisser baisser d'intensité. Elle doit tout le temps habiter notre cœur et nous remplir de joie et de foi pour le temps dans lequel nous vivons. Pour autant, tout cela s'accompagne d'une vision biblique. Oui à l'attente fervente, mais oui aussi à une compréhension des temps dans lesquels nous sommes, tels que la Bible en parle. Et la Bible dit clairement, par exemple, que nous sommes dans les derniers temps, non pas en 2020, non pas en 2021, dans les temps qui vont venir, on est dans les derniers temps depuis la Pentecôte. C'est ainsi que l'Écriture parle des derniers temps. C'est assez étonnant. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle des derniers temps comme si c'était... Alors, bien sûr, il y a la pirouette qui consiste à dire « Oui, bien sûr, les derniers temps ont commencé à la Pentecôte, mais on est dans les derniers, des derniers, des derniers, des derniers temps. » On n'en finit plus. Cette espèce d'interprétation n'est pas juste. Nous sommes dans les derniers temps depuis la Pentecôte, puisque l'apôtre Pierre cite le prophète Joël. Dans Actes 2:16, il dit « Voilà ce qui est écrit dans le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Amen. » Oui, nous sommes dans les derniers temps et nous y sommes depuis 2000 ans. C'est pas pour dire que le Christ ne reviendra pas, la fin du monde n'arrivera pas. Ça veut dire simplement que les derniers temps, c'est une période bien plus large. Et aujourd'hui, ce temps dans lequel nous sommes fait partie des derniers temps, comme c'était le cas pour les apôtres dans le Nouveau Testament. Les derniers temps, c'est le temps actuel. Quand le Seigneur parle aussi de ce qu'on a appelé les événements de la fin des temps, dans Matthieu 24. Il parle de tout ce qui va se passer. Il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus, je ne vais pas le lire maintenant, vous relirez ce chapitre 24, parle de toutes sortes d'événements, à la fois dans le ciel, mais aussi sur la terre, avec des guerres, des bruits de guerre et toutes sortes de choses, et aussi la persécution. Les premiers à qui il destine cette parole, ça n'est pas nous, ce sont les gens qui sont avec lui. Puisque dans ce chapitre 24, au verset 34, il dit « cette génération ». Jésus parle à des gens bien réels, bien concrets devant lui. « Cette génération ne passera pas avant que ces choses n'arrivent ». Donc ce chapitre 24, bien sûr, annonce ce qui va se passer dans toute l'histoire et dans les temps qui vont précéder le retour physique de Jésus. Mais ça concerne aussi le temps dans lequel vivaient les premiers chrétiens. Parce que nous sommes dans les derniers temps, depuis maintenant 2000 ans. Quand il dit « priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, si vous êtes en Judée, fuyez », etc. Il parle aux gens bien concrets de son temps. Donc on ne peut pas interpréter les prophéties toujours comme si ça annonçait seulement des événements futurs. On comprend, et c'est très important pour nous, que la Bible ne nous donne pas un calendrier d'événements, surtout pas. Dieu ne peut pas nous dire d'un côté « nul ne sait le jour ni l'heure », et puis nous encourager et stimuler notre imagination pour qu'on essaie de deviner les temps. Le Seigneur nous donne des événements, et c'est ça la prophétie biblique, des événements qui vont couvrir tout l'espace de l'histoire de l'Église et qui vont se répéter, qui vont s'intensifier, mais qui appartiennent à toute l'histoire de l'Église. Les guerres, les bruits de guerre, etc. Tout ça, ça fait partie de ce que la première génération a vécu. Et le premier accomplissement de Matthieu 24, c'est lorsqu'en l'an 70, l'Empire romain, les armées romaines envahissent Jérusalem, détruisent le temple et arrive dans une arrive à commettre finalement l'abomination. C'est la première des accomplissements de cette parole de Jésus au moment où la première génération des chrétiens était encore en vie. Et ça ne passe simplement le temps d'aujourd'hui. Alors voilà quelques. Je ne vais pas entrer dans trop de détails parce que c'est pas toujours facile quand on n'est pas vraiment en direct. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux souligner ici. La Bible n'est pas là pour nous dire que tel événement correspond à. Non, non, non. Il faut se garder de ces choses-là. Elle nous parle d'événements qui vont se répéter, qui vont arriver et se répéter toujours plus dans l'histoire de l'humanité et accompagner la vie de l'Église. Pareil pour l'Apocalypse. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais l'Apocalypse, c'est décrit non pas la fin des temps tels qu'on l'entend généralement, mais elle décrit tous les événements qui vont à nouveau se répéter tout au long de l'histoire. Et elle est écrite, cette Apocalypse, aux chrétiens du premier siècle, qui vivaient la persécution et qui vivaient sous la férule de l'Empire romain, qui était un empire totalitaire. Et c'est écrit dans le but de les fortifier et de les aider à traverser ce moment. Alors, l'Apocalypse résume les grandes tendances de l'histoire avec des symboles, avec des images. Elle nous parle de deux postérités qui s'affrontent. La postérité de la femme, et c'est bien sûr issu dont est issu le Christ, et ça parle de Israël et de l'Église, et la postérité du serpent. Qui représente ceux qui ne sont pas en Christ et qui ne sont pas sauvés et qui donc s'opposent. C'est donc quelque part le monde qui s'oppose à Dieu. Deux postérités qui s'affrontent. Deux villes, deux civilisations, Jérusalem et puis Babylone. Et à travers ces deux oppositions, on voit l'opposition entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Mais on voit aussi la victoire du royaume de Dieu. Et c'est ça qui est vraiment encourageant. Elle nous parle des grandes tendances, elle nous parle des crises économiques, oui, qui se sont répétées au cours des siècles. Notre 20e siècle, qu'on a quitté maintenant, on a connu trois crises économiques déjà, mais le monde en avait connu avant, et il y en aura d'autres. Mais elle nous parle aussi des crises sanitaires, en parlant des pestes. Aujourd'hui, on vit une crise sanitaire qui s'accompagne d'une crise économique, c'est une crise globale, c'est difficile, c'est quelque chose d'unique. Mais en même temps, les épidémies, au XXe siècle, il y en a eu trois. Et pour certaines d'entre elles, elles ont fait des dizaines de millions de morts. Celles que nous vivons aujourd'hui, c'est tragique, mais elle n'est ni nouvelle, ni plus grave, ni plus importante. Elle fait partie de ce qui a accompagné l'histoire de l'Église et des nations depuis des siècles et qui montre que notre monde est un monde déchu dans lequel l'ennemi veut détruire, dans lequel il veut saccager, mais un monde qui est destiné au jour où le Christ reviendra pour établir sa justice. Alors, encore une fois, pour essayer d'expliquer ce que je veux dire, quand on parle de... Beaucoup de chrétiens attendent, par exemple, la grande tribulation comme un événement final qui va toucher l'Église. Mais la Bible parle de la tribulation et de la persécution comme un événement qui a accompagné toute l'histoire de l'Église. Et certains pays, certains empires ont connu, certains régimes ont infligé une tribulation et continuent d'infliger une persécution terrible aux chrétiens aujourd'hui. Alors nous, en Occident, on est protégés pour l'instant et du coup, on attend une grande tribulation qui serait à venir. Mais c'est oublié que dans les siècles passés, le XXe siècle a été le siècle d'une grande persécution contre les chrétiens. Eh bien, cette persécution, elle a déjà cours. Elle fait partie du temps dans lequel nous sommes. Et si l'Occident est épargné, c'est parce que il a bénéficié d'une culture chrétienne qui fait que le choc entre l'Évangile et une culture chrétienne qui n'est pas vraiment en Christ, mais qui est marqué par le christianisme, est moins violent que dans les pays où les religions et les philosophies, les idéologies n'avaient rien à voir avec le christianisme. C'est là, c'est dans ces pays-là que la persécution est grave. Alors, à travers cette persécution, on parle de l'antichrist et on en parle aussi de quelque chose qui est à venir. En même temps, même s'il y a une dimension probablement à venir, pour autant, La Bible parle de l'esprit de l'Antichrist comme étant à l'œuvre depuis longtemps. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, il est dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, il dit « L'Antéchrist vient, mais il y a maintenant déjà plusieurs Antéchrists dans le monde. » Donc, on est devant un principe qui agit dans l'histoire. À travers quoi ? À travers des idéologies, à travers des systèmes politiques, souvent totalitaires, qui vont amener une concentration des pouvoirs, une perte de liberté pour tout le monde. Et bien sûr, pour les croyants aussi. C'est pourquoi la tribulation peut être parfois excessivement douloureuse pour les croyants. Donc, on est là devant des réalités dans lesquelles on vit. Voilà le monde dans lequel on vit. Et on doit être ni étonné, ni surpris, ni décontenancé. Ça fait partie de la réalité de l'Église que l'on doit affronter avec la force de Dieu, dans sa paix, dans sa grâce, mais aussi avec une conscience très claire que ces choses font partie de notre réalité. Alors, ça veut dire quoi ? Je termine maintenant. Ça veut dire que, dans tout cela, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque fois que l'Écriture parle de cette histoire du monde, et aussi, finalement, des fins dernières telles que nous l'entendons, elle nous parle de foi, elle nous parle de lever les yeux vers le Seigneur, et dans l'Apocalypse, elle nous parle de révélation du Seigneur. On ne le dira jamais assez, l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ, et non pas le livre de la révélation des événements qui nous attendent. Il y a une perversion totale autour de ce livre qui consiste à ne voir que les événements qu'on pense être de futurs événements précédant la venue du Seigneur, alors que le but central de ce livre, c'est de nous révéler qui est Christ, de nous révéler sa souveraineté, sa gloire, de nous révéler le ciel, de nous révéler l'atmosphère de louange et d'adoration qui est dans le ciel et qui entoure le trône de Dieu. Il nous fait pénétrer dans cela. Et bien sûr, ce Dieu qui est entouré de gloire et d'honneur, en même temps, il conduit l'histoire du monde. Et même s'il y a un royaume qui s'oppose à son royaume, cette opposition, il la contient, il la mesure, il lui donne des limites. Il laisse parfois cette opposition attaquer même l'Église, attaquer les nations, mais il contrôle toujours, il est toujours celui qui conduit l'histoire jusqu'au moment où le Seigneur reviendra et donc révélera sa gloire et amènera cette nouvelle terre et ses nouveaux cieux. Voilà le message de l'Apocalypse. Il faut qu'on se libère et qu'on se débarrasse énergiquement de tout ce qui pourrait nous amener une sorte de crainte, d'appréhension. Ah, ceci, ou la persécution, ou les événements de la fin. Non, non, on attend la bienheureuse espérance du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui doit habiter nos cœurs, c'est toi qui doit nourrir notre louange et notre foi, et c'est ça qui nous rend vainqueurs dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous ne sommes pas étonnés de ce qui se produit, la Bible nous en parle, on a vécu des temps difficiles, on en vivra encore, mais non pas dans la crainte et en se méfiant, non, mais en étant toujours fondé sur la confiance et la paix que Dieu veut nous donner. Alors en attendant ce temps-là, eh bien, c'est le moment de mettre en œuvre notre vision. Notre vision, c'est d'incarner le royaume de Dieu. C'est de faire entendre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Mais c'est aussi de vivre dans tous les domaines de notre vie, de nos engagements professionnels, politiques, associatifs, de vivre la réalité du royaume de Dieu. Parce que justement, si l'Apocalypse nous parle du royaume des ténèbres qui va accentuer son opposition contre Dieu, la Bible nous parle aussi de la croissance du royaume de Dieu qui va en même temps gagner du terrain. De toutes sortes de façons, regardez ce qui est dit dans les prophéties, les paraboles du royaume de Dieu. Je pense par exemple à, alors que je ne me trompe pas dans ce que je vous partage, parce que je risque de vous partager mon calendrier ou je ne sais quoi d'autre, bon bref, excusez-moi. Mais quand Jésus parle du royaume de Dieu, il dit des paraboles. Il parle de ce grain de sénevé. Au départ, c'est la plus petite des semences, mais quand elle a poussé, elle devient un arbre dans lequel les oiseaux du ciel viennent habiter. Le royaume de Dieu, c'est du levain. C'est trois petites mesures, quelques petites mesures qui pénètrent la pâte et la font lever dans son ensemble. autant de textes qui nous montrent que le royaume de Dieu est en marche, il est en route, il grandit. L'évangile, dit Paul dans Colossiens, est parmi vous, il le disait au premier siècle. Il va grandissant dans le monde entier, il porte des fruits. L'apôtre, le prophète qui avait annoncé la gloire de la Nouvelle Alliance disait « La gloire de cette seconde maison sera plus grande. » Agée, chapitre 2, je crois, le verset 6. « La gloire de cette seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. » On va vers une croissance de la manifestation de la présence de Dieu, du salut, de la guérison dans nos vies et dans les nations, en même temps que l'opposition grandit. Mais c'est normal, la Bible nous en a avertis et on doit fixer nos yeux aussi sur ce que le Seigneur fait. Donc aujourd'hui, même si l'économie va être dans une situation difficile, eh bien il faut que des chrétiens continuent de travailler dans l'économie, les entreprises, le commerce, les entreprises solidaires. Il faut que des banques chrétiennes puissent naître, parce que quand tout s'écroule, il faut qu'il y ait une alternative, il faut qu'il y ait des secours, il faut qu'il y ait des ressources. Alors on se dit, oui, mais bon, on n'a pas les moyens, c'est difficile, c'est long. Oui, mais c'est ce à quoi on est appelé, à vivre notre espérance et notre foi dans tous les secteurs de la société, pour faire naître une culture, une économie par exemple, une économie alternative. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre des épiceries solidaires, c'est appartient à cela. La notion des greniers de Joseph, c'était de créer des ressources pour les temps difficiles. Et notre frère Jean-Hubert Mazel incarne cette vision avec d'autres. Et il est aujourd'hui une réponse. Nos banques alimentaires, nos épiceries solidaires le sont. Nos coopératives, même si elles sont petit nombre, elles sont ces réponses aux besoins du monde d'aujourd'hui. Je pense au Secours protestant. Vous allez recevoir bientôt une information. Le Secours protestant, c'est une association qui traite de l'urgence humanitaire et qui travaille à Marseille, dans un quartier difficile, en plein dénuement, et dont le fondateur est un membre de notre réseau Nouvelle Connexion. Eh bien, voilà une présence pour le salut, le bien-être de ceux qui sont en difficulté. Parce que ce soit dans l'économie, dans la santé, dans la production, il faut qu'on crée des ressources. Vous voyez, moi, ce que je reçois de cette crise, c'est que cette vision du royaume de Dieu dont on parle souvent, qu'il est présent dans tous les secteurs de la société pour amener la justice dans la santé, dans l'économie, dans l'environnement, dans toutes sortes de domaines, eh bien, est encore plus pertinente aujourd'hui. Et même si on n'est pas concerné directement les uns les autres, parce qu'on n'est ni chef d'entreprise, ni travailleur dans la santé, ni travailleur social, ni dans l'éducation, je ne sais, on doit prier pour cela. On doit prier pour que son règne vienne. On doit prier pour que les chrétiens fassent naître, là où ils sont, dans leur secteur, des initiatives qui vont marquer leur environnement, qui vont incarner la grâce de Dieu et qui vont amener ainsi des réponses au monde dans lequel nous sommes. Le déconfinement, c'est une grande question, je ne vais pas entrer dans le détail, mais n'empêche que la question qui nous attend, le défi qui nous attend, nous, c'est d'être une réponse toujours plus adaptée aux questions que va soulever le déconfinement en termes d'aide psychologique, d'aide spirituelle, d'aide matérielle, de toutes sortes de choses. Il y a des chemins que Dieu va ouvrir pour nous, pour pouvoir incarner l'amour de Dieu dans notre génération, alors que les conséquences de la crise vont apparaître avec parfois tellement, tellement de dureté. Voilà notre responsabilité aujourd'hui. C'est de prier pour que son règne vienne, c'est pour prier pour que la justice vienne, pour que les ressources de Dieu soient libérées. On n'est pas dans le temps du jugement. Non, on n'est pas dans le temps du jugement. Jésus l'a annoncé depuis 2000 ans. Il a dit, le Père, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Jean chapitre 3, verset 16 et le verset 17. Il y a des jugements qui se manifestent, bien sûr, parce que le péché et la désobéissance portent en eux-mêmes les conséquences de ces actes. Mais le jugement n'est pas là maintenant. Le jugement, il sera au moment où Dieu le décidera. Il y aura un temps pour le jugement. Mais nous sommes dans le temps de la grâce, nous sommes dans le temps de la mission, dans le temps de l'annonce de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, même si les situations ressemblent à des formes de jugement. Non, Dieu ne punit pas le monde. Dieu n'est pas en colère contre le monde, il est encore plein d'amour, toujours. C'est le temps de la grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut qu'on soit habité par cela. Parfois, j'entends des messages, alors sur Internet ou ailleurs, de jugement, d'accusation par rapport au monde dans lequel nous sommes. Mais ce n'est pas ça la culture du royaume de Dieu. On est là au contraire pour incarner l'amour de Dieu, sachant qu'un jour le jugement viendra, mais il appartient à Dieu. Et ce n'est pas à nous d'entrer dans une posture, une culture du jugement ou de la dénonciation de je ne sais quoi, sauf de ce qui est injuste, mais une accusation, je veux dire, du monde dans lequel nous sommes. Il viendra en son temps, mais aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Dieu use de patience. Et ce sera mon dernier texte pour ce matin. Dieu use de patience. J'espère que Zoom aura de la patience aussi un peu envers moi pour pas qu'on finisse. Voilà. Ce texte est magnifique. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Voilà le temps dans lequel nous sommes et pour lequel nous devons prier, dans lequel nous devons nous engager. Il y a de l'espoir pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas tellement d'espoir pour des situations dans le monde dans lesquelles on voit malheureusement les conséquences de la folie, les conséquences de la prétention, les conséquences des erreurs humaines, d'accord. Mais il y a une intention de Dieu, que le peuple de Dieu soit une source, un canal de bénédiction et de salut pour son environnement. C'est cela que nous disons quand nous disons que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu, Seigneur, comme celui qui est la source du salut, que ton règne vienne. Ce règne qui est fait de justice, de paix et de joie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors dans ces temps dans lesquels on est secoué, on est ébranlé les uns et les autres, en même temps, que Dieu fasse surgir ce qui est inébranlable. La confiance en lui. Oui, il peut y avoir des difficultés. Oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais en même temps, le psalmiste dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Tous les jours de ma vie. Pas pour moi égoïstement, mais pour que je puisse incarner dans le monde dans lequel je suis l'amour et la grâce de Dieu. Et que le salut et la louange et la guérison germent dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans nos associations, dans nos environnements et dans notre pays de France, pour la gloire de son nom. Amen. C'était ma méditation, ma prière, mon vœu pour nous ce matin. Et justement, avant de terminer, je récupère ma Bible, on va ensemble prendre le pain et le vin comme une confession de notre confiance dans ce que Dieu a fait pour nous et dans ce qu'il veut pour nous. Je choisirai le texte de Matthieu, parce qu'on connaît bien tous ces textes qui parlent du moment où le Seigneur a institué la scène. Ce texte, c'est Matthieu 26 et le verset 26. J'aime ce texte parce que, et je vais vous dire pourquoi, mais je vais le lire d'abord. Donc, si vous avez votre pain et votre vin à proximité, eh bien, vous pouvez commencer à vous préparer. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. Amen. » Ce temps de Sainte-Cène nous parle du passé, de ce que le Christ a accompli, de sa croix, de sa mort sur la croix, sa mort expiatoire, et de la résurrection qui a suivi, qui nous assure un plein salut, qui nous assure une pleine liberté, qui nous assure une pleine délivrance et une pleine abondance. Elle nous parle du présent, où nous devons vivre en mémoire, nous devons nous rappeler cela, nous devons vivre dans la confiance dans l'œuvre ancrée dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Nous sommes tous les jours au bénéfice du salut qu'il nous a donné. Et nous devons, pourquoi est-ce que nous renouvelons le pain et le vin? pour nous rappeler cela et pour permettre au Saint-Esprit de nous recommuniquer toujours plus les bénédictions de sa mort et de sa résurrection. Mais ce moment nous parle du futur et de notre espérance, où Jésus dit, avant de quitter ses disciples, « Je n'en boirai plus avec vous désormais, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous. » Et là, alors, tout ce que nous avons partagé jusqu'à maintenant prend son sens. Nous portons nos regards vers le jour où nous serons réunis tous ensemble dans sa présence. Le jour où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni cris, ni rien de semblable. Les premières choses que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les choses qui appartiennent à la souffrance, à la tyrannie du diable, aux épidémies, aux crises économiques, aux douleurs, au deuil, à la mort, ces choses-là auront disparu. Dieu essuiera toute larme de nos yeux et il nous permettra de vivre dans sa présence pour l'éternité. Il habitera avec nous, au milieu de nous, et nous serons son peuple et nous pourrons vivre pour l'éternité à sa gloire pour le servir. C'est pourquoi maintenant, je vous invite à prendre le pain en souvenir de son corps qui a été brisé pour nous. Dans ses meurtrissures, nous avons une pleine guérison et nous recevons à travers ce pain, qui reste du pain, mais qui est le symbole de son corps, nous recevons sa santé, sa grâce. Nous recevons sa vie. Et puisqu'on est un peu dans un moment un peu inhabituel, vous savez quoi ? Je me dis que c'est un peu bête de manger qu'un seul morceau. Dans la culture juive, on prenait le pain et le vin au cours d'un repas. Et si vous avez un ou deux morceaux, c'est pas un problème. Même trois morceaux, vous pouvez prendre autant que vous voulez, parce que ça fait partie de ce que le Seigneur veut pour nous. Et que ce soit aujourd'hui ou même dans les cultes, quand on se retrouvera, enfin, on en reparlera si vous voulez, mais nourrissons-nous de Jésus, de sa présence, de son salut et de son œuvre. Et en prenant le fruit de la vigne, nous confessons que son sang a coulé pour nous et que dans son sang, nous avons la rémission de nos péchés, le pardon, la délivrance, dans la victoire. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, son sang nous purifie constamment de tout péché. Et nous pouvons vivre en permanence dans sa présence et dans sa bénédiction. Alors, eh bien, nous célébrons la victoire de Christ à travers le sang, le don de sa vie. Seigneur, merci